Il est 6h.
Il y a un virus dans notre pays qui est aujourd'hui beaucoup plus dangereux qu'il ne l'était auparavant parce qu'il est beaucoup plus contaminateur. Et donc, il nous faut prendre des mesures.
Passe sanitaire, allemand, amende, isolement obligatoire. Le Conseil des ministres a adopté hier soir le projet de loi face au Covid, mesure que nous détaillerons, analyse et rédaction dans un instant. La traque se poursuit dans les Alpes-Maritimes autour du village de Gréolière. L'homme recherché est armé et dangereux selon les autorités. Nous serons aussi en Belgique, jour de deuil national après des inondations qui ont frappé le pays. Et puis, hommage à la chanteuse engagée Joanne Baez, une rue va porter son nom dans les Pyrénées-Orientales. Juste après ce journal, le regard international de Jean-Sébastien Soldaini et l'armée qui s'immisce dans la lutte contre le Covid en Birmanie. Et puis notre rendez-vous d'histoire avec David Castello-Lopez qui nous replonge aux origines d'un objet du quotidien. Ce matin, une pratique sportive qui a inventé le bodybuilding. Très bon réveil, vous êtes sur Europe 1, il est 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 6 heures. Bonjour Léna Hickmanier.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Nous y sommes donc. La France est entrée dans une quatrième vague de l'épidémie de Covid. Déclaration hier du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Ça fait plusieurs semaines que les médecins en parlaient. Le gouvernement suit le mouvement et dit que la France connaît donc une vraie reprise de son épidémie. Les mesures du pass sanitaire sont donc indispensables. Avant d'en voir les contours, on écoute Gabriel Attal faire le point sur la situation épidémique en France.
Il y a un virus dans notre pays qui est aujourd'hui beaucoup plus dangereux qu'il ne l'était auparavant parce qu'il est beaucoup plus contaminateur. Et donc, il nous faut prendre des mesures. Mais ces mesures ne visent pas à considérer que qui que ce soit est un criminel ou un fraudeur. Elles visent à faire en sorte qu'on puisse maintenir un cadre qui nous permet d'accéder à des lieux de vie sociale, qui nous permet de continuer à nous voir, à nous retrouver, tout en limitant au maximum la circulation du virus dans notre pays pour ne pas avoir à tout refermer, comme malheureusement nous l'avons connu déjà dans notre pays.
Gabriel Attal, juste après un conseil des ministres exceptionnel, au cours duquel il a annoncé l'avis favorable du pass sanitaire rendu donc par le Conseil d'État.
Et on en vient donc à ces annonces. Première chose, tout ce qui était souhaité par le gouvernement, les naïcs, n'a pas été retenu.
Non, justement, le Conseil d'État a certes rendu cet avis favorable sur le projet de loi sur la vaccination obligatoire des soignants ou bien sur la mise en place d'un pass sanitaire étendu. Néanmoins, les magistrats ont émis des réserves. Claudia Bertram, c'est pour cela que certaines mesures ont été assouplies.
Oui, l'exécutif desserre un peu l'étau. Le gouvernement maintient le calendrier annoncé, mais certaines remarques du Conseil d'État ont été prises en compte. L'extension du pass sanitaire est confirmée, y compris dans certains centres commerciaux. Le Conseil d'État avait émis des réserves. Le gouvernement propose qu'il soit maintenu si des commerces de première nécessité se trouvent à proximité. Autre annonce hier soir, les sanctions pouvant toucher les professionnels chargés de contrôler le pass sanitaire dans leurs établissements sont revues à la baisse. L'amende initiale de 45 000 euros en cas de manquement passe à 1 500 euros, 9 000 en cas de récidive. Et puis, une période de rodage est prévue, une semaine ou plus, pour accompagner les professionnels dans la mise en place du pass sanitaire. Il n'y a aucune envie de piéger qui que ce soit, c'est ce qu'a assuré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Désormais, c'est un marathon parlementaire qui débute dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Les précisions de Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
On vient d'entendre l'une des mesures retoquée, c'est donc la baisse de la contravention pour les restaurateurs qui ne contrôleraient pas leurs clients.
Au tout début, l'amende était de 45 000 euros. Elle était déjà redescendue à 9 000 pour les patrons de restaurants. Et après les dernières remontées du Conseil d'État, on est passé à 1 500 euros pour un premier manquement. Une bonne nouvelle pour Roland Aigui, président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, même s'il fultise toujours ce pass sanitaire.
C'est mieux qu'avant. Au départ, effectivement, les 45 000 euros, c'était risible. C'était tellement exagéré qu'il y avait une entreprise sur deux qui aurait fermé leur établissement. Donc, je dirais que les sanctions sont plus raisonnables, mais encore beaucoup trop lourdes, parce que 9 000 euros, c'est pas possible, surtout s'il y a des contrôles sur les salariés. Comment voulez-vous, un salarié qui ne veut pas se faire vacciner, comment voulez-vous résoudre le problème? C'est pas possible. Alors, soit effectivement, il faut le sortir de l'entreprise avec tout ce qu'il y a derrière en termes de coûts et d'ennuis vis-à-vis des prud'hommes. Enfin, on n'a aucune réponse dans ce domaine-là. Quoi qu'il arrive, oui, on veut faire notre travail. Oui, on veut que les Français et nos clients soient effectivement protégés du Covid, mais ce n'est pas à nous faire le travail.
Roland Aigui de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie au micro de Johanna Chabas, Gabriel Attal qui a par ailleurs évoqué une période de rodage. Et puis petite parenthèse, si vous êtes en vacances en Charente-Maritime, sachez que le port du masque en extérieur redevient obligatoire dans 45 communes, comme à l'île de Ré par exemple.
Le texte sur ces mesures contre le Covid arrive donc aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Il sera examiné demain dans l'hémicycle et il suscite toujours toujours autant la controverse chez certains Français.
On a vu dans les cortèges du week-end dernier plusieurs types de manifestants, des Français venus dénoncer une société à deux vitesses, des gens inquiets pour leur emploi. Mais il y a aussi une autre partie de contestataires et celle-ci inquiète beaucoup plus les renseignements. Marion Dubreuil, ils craignent une dérive un peu comme avec les Black Blocs pendant la crise des Gilets jaunes.
Oui, plus le conflit durera, plus le risque est grand que les plus déterminés et les radicalisés parviennent à prendre le contrôle, comme pour les Gilets jaunes. Voilà ce qui inquiète les renseignements territoriaux dans une note émise hier que nous avons pu consulter. Samedi dernier, les manifestants ont déjoué les pronostics des renseignements. Les forces de l'ordre attendaient 40 000 participants. Ils ont été presque trois fois plus nombreux, avec pour mot d'ordre la défense de la liberté. Le mouvement est difficile à évaluer, nous explique une source police, parce qu'il n'est pas encore organisé, si ce n'est des appels à manifester relayés sur les réseaux sociaux. Il y a bien des extrémistes de tous bords, des militants d'extrême gauche comme de l'ultra-droite. L'immense majorité des manifestants, c'est monsieur et madame tout le monde, de simples citoyens venus avec leurs enfants, comme au début de la crise des Gilets jaunes. La plupart issus de professions directement concernées par la politique gouvernementale, sous le coup de l'obligation vaccinale, comme les personnels soignants, ou l'obligation de contrôler le pass sanitaire pour les restaurateurs et les acteurs de la vie culturelle.
Les précisions de Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
6h06 sur Europe 1. Le pass sanitaire, on continue à en parler puisque de lui va aussi dépendre, Lénaïque Monnier, une partie de l'activité économique.
Oui, avec la réouverture des restaurants et des bars notamment, l'emploi salarié au premier semestre a augmenté. Faut-il y voir jusqu'à présent un frémissement de la reprise économique? En tout cas, certaines entreprises se portent bien. Nous sommes près de Saint-Omer ce matin, chez un grossiste en boissons qui alimente café, discothèque, restaurant. Reportage signé Maximilien Carlier.
Devant l'entrepôt, un camion rempli de bière, vin, soda, direction les établissements sur le littoral dunkerquois. Et on sent que le chauffeur est assez pressé.
Là, c'est la course en ce moment. Et c'est un boom, hein, je veux dire. Avec le beau temps, tout le monde travaille, donc il faut ravitailler tout le monde, quoi. Café, hôtel, restaurant.
Des va-et-vient de palettes, il n'y a que ça ici. Depuis la reprise, ce grossiste en boisson a une centaine de clients supplémentaires, chiffre d'affaires en hausse. Laurent Péker, directeur de Sodi Boisson.
Si on compare juin 21 par rapport à 2019, on est à 30% de plus. Par rapport à 2020, forcément beaucoup mieux, quasiment 50%. Et juillet, je pense qu'on va finir entre plus 20 et plus 30. Ouais.
De très bons résultats cette année, car il a fallu reconstituer les stocks pour beaucoup de cafés et restaurants. Cette croissance a engendré tout de même des embauches depuis début mai, des magasiniers, des conducteurs de poids lourds, dans l'administratif également.
Là, on a recruté 15 personnes. On en a encore 3 qui démarrent cette semaine. Ça marche, on se développe, c'est dans les moments difficiles qu'il faut investir et prendre un peu de risques.
Alors bien sûr, il y a un rebond selon ce grossiste en boisson, mais il se demande si ça va durer avec la quatrième vague annoncée et surtout le pass sanitaire dans la restauration. Le Linguem, Maximilien Carlier, Europe 1.
Éric Dupond-Moretti se dit plus que jamais déterminé à être ministre de la Justice.
Le garde des Sceaux exclut une nouvelle fois de démissionner après sa mise en examen vendredi pour prise illégale d'intérêt. Hier, il s'est exprimé pour la première fois. Il a montré toute sa détermination à continuer sa fonction ministérielle.
Je suis plus que jamais déterminé à être pleinement ministre de la Justice. Rien n'entamera ma détermination. Je suis extrêmement serein. Ma légitimité, je la tiens du président de la République et du Premier ministre. Et j'ai reçu un certain nombre de soutiens, même de l'opposition, des soutiens extrêmement nombreux. Je veux vous dire, monsieur, en tant que justiciable, j'ai comme tout le monde des avocats qui feront valoir mes droits. Et en tant que ministre, je suis à 100% dans la tâche qui est la mienne.
La détermination d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice.
Dans le scandale Pegasus, la riposte de Mediapart et du Canard Enchaîné.
Le site d'information et l'hebdomadaire satirique portent plainte après que certains de leurs journalistes ont été espionnés par un service marocain à l'aide du logiciel israélien qu'on a donc appelé Pegasus. Des journalistes et dissidents du monde entier qui auraient été également surveillés. Le Maroc nie tout en bloc.
Il est 6h09 sur Europe 1 et toujours aucune nouvelle de l'homme en cavale dont les Alpes-Maritimes la traquent autour du village de Gréolière se poursuit.
Le préfet a appelé le suspect à déposer les armes et à se rendre. Il est soupçonné d'avoir tué une femme près de Saint-Tropez, une femme avec laquelle il avait entretenu une brève relation. 150 gendarmes et forces du GIGN sont déployés. Cet homme âgé de 32 ans est armé. Il est considéré comme dangereux. Sylvie, habitante du village, est stupéfaite. Elle tient un restaurant. Le fugitif était l'un de ses clients.
C'est quelqu'un qu'on a côtoyé. Jamais, jamais, on aurait pensé qu'il ait pu avoir ce coup de folie, quoi. Très sympa, qui parle bien, pas quelqu'un de renfermé. Un gars qui travaille, qui vivait sa petite vie, quoi. Sa famille, c'est vraiment des gens comme vous et moi. C'est pas une famille à problème, ni quoi que ce soit. Donc, c'est inexplicable. J'espère pour lui qu'il va revenir à la raison et vite se rendre. En plus, là où il est, c'est une zone où il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils s'aventurent, qui ne connaissent pas, se perdent. À mon avis, ça va être coton pour le retrouver. C'est un enfant du pays, il a grandi ici, donc il connaît bien les bois, il connaît bien le coin. Et s'il veut se cacher, c'est vrai qu'on peut se cacher facilement.
Et propos recueillis par Caroline Baudry, j'ajoute qu'un rassemblement en hommage à la jeune femme tuée aura lieu demain à 18h au plan de la Tour dans le Var.
À l'étranger, la Belgique s'apprête, elle, à rendre hommage aux victimes des inondations.
Journée de deuil national alors que 36 personnes ont perdu la vie. À midi pile, les sirènes retentiront et le pays se figera pour une minute de silence. Isabelle Horry, il faudra du temps pour que les zones sinistrées retrouvent un semblant de normalité.
Oui, on en est vraiment loin. L'heure est encore au déblayage des débris, au relogement, à la recherche des victimes. Plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. L'émotion reste très vive, même du côté des autorités. Le chef du Centre national de crise, Bart Remakers, a craqué hier en conférence de presse en évoquant la catastrophe qui arrive en pleine épidémie de coronavirus.
Tout le monde espérait vivre enfin un été plus calme, mais le destin en a malheureusement décidé autrement. Ce sont en général les pires moments qui permettent de faire émerger le meilleur de l'être humain. Les nombreux témoignages de solidarité spontanée nous donnent incontestablement le courage de continuer. L'union fait la force.
L'union fait la force, c'est la devise de la Belgique qui célébrera demain sa fête nationale, 100 balles à Bruxelles et avec un défilé militaire réduit. En parallèle, les assureurs vont continuer d'évaluer les dégâts qui devraient se chiffrer en centaines de millions d'euros alors que les premières critiques se font entendre sur le manque de moyens des secours ou encore sur la mauvaise gestion des barrages. Mais il faudra sans doute du temps, là aussi, pour y voir plus clair dans les responsabilités.
Isabelle Horry pour Europe 1.
La conquête spatiale et l'heure de l'envol, ça y est, a sonné pour Jeff Bezos.
Le riche, le jeune et la vétéran, c'est l'équipage qui décolle à bord de la fusée Blue Origin, aux côtés du milliardaire et de son frère, un jeune Danois de 18 ans, et donc une astronaute de 82 ans qui jamais n'avait eu l'occasion d'aller dans l'espace ce jour.
Les plus jeunes et plus vieilles astronautes de l'histoire.
Absolument.
Enfin, une rue John Baez dans les Pyrénées-Orientales.
Oui, la folle engagée s'était produite en juillet 2019 à Perpignan. C'était à l'occasion de sa tournée d'adieu et c'était l'occasion parfaite pour Patrick Bellegarde, maire de Passa, 1200 habitants, de baptiser une rue en son hommage.
On a posé la question à John Baez qui nous a dit « Ah ben oui, pourquoi pas, c'est sympa ». Et c'est surtout son manager qui nous a dit « Non, mais vous voulez quoi en échange ?» Et on lui a dit « Mais rien, c'est comme ça pour reconnaissance de son travail d'artiste. Bon, ben ok, allez-y ». Elle était ravie. C'est-à-dire au pied de la montagne sacrée du pays catalan, quand on est dans une rue John Baez avec du soleil partout, c'est magnifique. C'est quelqu'un, moi, qui m'a accompagné dans mes écoutes, dans ma découverte de la musique. J'ai eu la chance d'avoir avec moi une équipe municipale qui a partagé ça. En plus, elle a des positions politiques, moi, qui ne me sont pas indifférentes. Hein. Elle a une des chansons que j'aime beaucoup, c'est « Here's to you, Nicolas and Bart ». C'est magnifique. Mais moi, je ne chanterai pas parce que là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, je ne l'assassinerai pas en massacrant une de ses chansons. Here's to you.
La marche de Sacco et Vanzetti, l'un des tubes évidemment d'une reprise par John Baez. C'était deux anarchistes italiens, ça remonte aux années 20.
Merci beaucoup, c'est agréable de commencer la journée comme ça. Merci, c'était le journal de Lénaïque Monnier. Il est 6h14 sur Europe 1.